il y a une vie après normale.
Guillaume Fister, bonjour. Donc, c'est un plaisir de vous recevoir.
Bonjour.
Alors, vous avez un parcours très, très éclectique, c'est le moins qu'on puisse dire. Quand j'ai préparé donc, cette interview, j'ai été assez surpris, puisque vous avez été, je cite, je jette ça en vrac, metteur en scène de théâtre, donc lors de vos années étudiantes à l'ENS, conseiller de Frédéric Mitterrand, et pas François Mitterrand, comme j'ai noté, ça aurait été plus surprenant étant donné votre âge, lors de son passage au ministère de la Culture, en tant que ministre de la Culture, directeur adjoint, vous me dites si je me trompe, du think tank Forum d'Avignon, et aujourd'hui, jury à Sciences Po et en charge de questions sur la télévision, dont on va parler un peu plus en détail. Alors, on se rend compte, donc, en citant un petit peu donc, tous ces faits d'armes, qui sont loin d'être inintéressants, qu'il reste quand même un dénominateur commun de tout ça, c'est la culture. Alors, donc, vous rentrez justement à l'ENS en 2006 et en études théâtrales, justement. Alors, pourquoi avoir choisi, à la fin de votre classe préparatoire, les études théâtrales?
Alors, pourquoi avoir choisi Alors, déjà, pas à la fin, mais au début, puisque c'est une spécialité que les étudiants d'études théâtrales connaissent bien et qu'on choisit dès la fin de l'hippocampe, en même temps que toutes les autres spécialités. Bah, comme beaucoup d'étudiants à ce moment-là, en réalité, ça vient de généralement d'une passion prise petit, où on fait du théâtre, on joue et on se dit, tiens, pourquoi pas l'incorporer dans les études. Et comme souvent les étudiants en études théâtrales sont des gens qui se sont dit, je ne sacrifie pas les études, mais je ne sacrifie pas la passion non plus. Et on se retrouve à faire ça. Donc du coup, voilà le choix qui me mène à être... à rentrer à l'époque à Normale Sup en théâtre. Et ce qui était, à mon, si je me rappelle bien, la première promotion. Il y avait eu une promotion expérimentale l'année d'avant, et c'est la première promotion pleine et entière à l'ENS de Lyon.
Et vous étiez combien donc, dans cette promotion?
On était élèves et auditeurs compris, on était 8.
Vous avez été réalisateur pendant cette période, et vous avez monté 2 pièces, donc en 2007... donc c'est via En scène donc à Lyon, Noce de sang de Federico Garcia Lorca, et en 2008 la toute première pièce de Luc Boltanski, le sociologue. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ces deux pièces, de vos souvenirs, de qu'est-ce que vous avez retiré de toutes ces expériences?
C'était d'abord avant tout extrêmement sympathique, stimulant, et ça a permis de passer les années de l'ENS avec beaucoup de joie. Ma première année a été une année dense, et j'ai envie de dire, à tous égards, et le moindre sans doute, les cours. Et j'étais à la fois président du BDE et j'avais ce projet théâtre, et tout ça s'est passé en belle intelligence entre les associations. C'était assez formidable. Je travaille beaucoup pour le président d'Enseigne. Le président d'Enseigne jouait dans ma pièce, donc c'était très sympathique. Federico Garcia Lorca, ça nous a pris beaucoup de temps. C'était un gros projet, c'était pas forcément la meilleure pièce sur le front théâtral et la performance, mais néanmoins ça a été un projet qui logistiquement nous a pris beaucoup de temps. On avait ramené je crois 200 kilos de terre battue sur la scène du Théâtre Cantor, qu'il fallait balayer et arroser tous les soirs, donc on a plus l'impression d'être à Roland-Garros que d'être dans le Théâtre Cantor, mais c'était sympathique et ça donnait un effet visuel très joli. Je pense que c'est la chose dont on pouvait se targuer, c'était la scénographie, c'était sans doute la chose la plus réussie. Et l'année suivante, le projet avec Boltanski, ça a été une année un peu spéciale, et un projet un peu spécial, parce qu'effectivement, en fait, c'est une rencontre avec Luc Boltanski qui a donné lieu à ce projet. Et Luc Boltanski avait écrit quelques pièces, mais qu'il n'avait jamais publié et jamais donné à jouer, et qui, comme il le disait lui-même, était du sitcom claudélien, écrite en vers libre, sous la forme, on pouvait y voir quelques ressemblances, et évidemment, on retrouvait les sujets de prédilection du sociologue derrière. Donc ça a été d'ailleurs publié, une édition du spectacle a été publiée aux éditions de l'ENS, donc je pense qu'on va toujours pouvoir les trouver dans les archives de l'ENS, et puis sur Amazon aussi. Et ça a été un beau moment parce que ça nous a permis de mobiliser pas mal d'énergie au-delà de ce que peuvent mobiliser habituellement les projets, parce qu'il y avait l'auteur qui était avec nous, qui venait souvent avec nous, qu'on a été beaucoup porté par l'école, et donc au lieu de jouer 3 fois comme c'est en tout cas à l'époque, mais je pense encore le cas habituellement, on a pu jouer 10 fois. C'était un spectacle lourd parce qu'en fait on montait 2 pièces en même temps, 2 pièces de 2 heures chacune, qu'on jouait parfois l'une ou l'autre et certains soirs les deux, avec un changement de décor très très lourd, avec 6 acteurs pour jouer 8 rôles dans chacune des 2 pièces, donc chaque acteur jouait dans les 2 pièces, si possible des rôles à emploi complètement opposés. Donc quand on jouait les 2 pièces d'affilée, pour les acteurs ça voulait dire 2 heures dans un rôle, un changement de décor lourd au milieu auquel ils participaient pour la plupart, et 2 heures dans un nouveau rôle 20 minutes après quand on rentrait l'entracte. Donc c'était très lourd. On a pu jouer à Paris dans les festivals étudiants, on a pu avoir des opportunités de le reprendre derrière, et on s'est séparés d'ailleurs un peu un peu bêtement parce qu'on avait des propositions pour le reprendre en province, pour monter sur les tréteaux. Le spectacle a été pensé comme tel, la scénographie était une scénographie mobile puisque c'était des praticables, des tréteaux on va dire, un spectacle de tréteaux. Et malheureusement on l'a pas fait parce que les impératifs, certains voulaient devenir comédiens, d'autres non. Et on n'a pas pu remobiliser tout cela, mais récemment quelques anciens acteurs de la troupe, vous voyez c'est quand même... 5 ans, 6 ans, 7 ans après, m'ont demandé de le monter, et qui sont aujourd'hui au Conservatoire National et qui passent le texte un peu de main en main et on travaille dessus. Et il y a le projet éventuellement de refaire quelque chose. Pour moi, ça va être plus compliqué, mais d'autres prendront la relève.
Affaire à suivre, alors, avec beaucoup d'intérêt. Et à la suite de vos études théâtrales, vous restez donc en Master 2 à l'ENS, Système territoriaux économie, aide à la décision.
Géographie.
Géographie, exactement.
Plus simplement.
Simplement. Pourquoi avoir choisi ça ? Puisqu'on sort un petit peu de... Vous commencez une petite reconversion avec ça.
Oui, alors oui et non. En fait, très simplement, comme beaucoup de parcours, c'est le fait du hasard. Fin des 2 années d'études théâtrales, envie de partir à l'étranger, et donc à Cambridge. Obligation de faire une inscription administrative à l'ENS. Et donc là, on se dit, c'est quand même un peu bête de s'inscrire en lettres après avoir fait théâtre. C'est un peu doublon. Du coup, on cherche autre chose. Et puis finalement, géographie. Ce qui était intéressant, c'est que j'avais le projet à l'époque déjà de travailler sur Marseille 2013, donc de la géographie culturelle, le projet de capitale européenne de la culture Marseille-Provence 2013. J'ai rencontré Bernard Attargé, qui était le directeur de cet événement, qui l'avait fait advenir. Et on a commencé à travailler ensemble. Donc en réalité, non, très simplement, à la fois le sujet, faire de la géographie culturelle et lui donner une dimension territoriale. J'avais travaillé beaucoup sur le théâtre populaire dans mes années d'études théâtrales, et donc la dimension ancrée dans les territoires. De ce qu'est notre présence culturelle et la décentralisation, et la composante territoriale est très très forte dans les enjeux culturels, et c'était devenu un peu ma spécialité. Et puis le fait que tout simplement j'ai mené de front à la fois Cambridge et l'ENS, que ça nous a pas échappé que c'était, il y avait la Manche entre les deux et quelques kilomètres, et le master de géographie offrait l'opportunité de que les cours se déroulaient sur une semaine condensée, donc on pouvait facilement passer de l'un à l'autre. Et finalement la géographie c'est 5 ou 6 semaines de cours dans l'année, donc on peut facilement s'en arranger.
Donc avec un certain nombre d'allers-retours et d'Eurostar à la clé. Alors justement, Cambridge et puis HEC. Alors Cambridge, donc toujours sur la culture, Screen Media et European Culture, je prends un mini accent anglais. Ensuite HEC, l'année d'après, c'est ça, en Master Média, Art et Création. Et alors pourquoi être parti à HEC ? Est-ce que c'était pour justement passer, je vais faire un jeu de mots facile, acteur... dans le monde de la culture, un acteur du monde de la culture quelque part?
Alors non, le but c'est qu'après avoir vu les affreux bien-pensants de gauche de l'ENS, il fallait aller voir les méchants capitalistes de droite d'HEC évidemment, et se faire son propre avis, plaise à ceux qui l'entendent. Non, le but, plaisanterie mise à part, c'est que à cette époque-là, le théâtre était quand même au cœur de mes projets, volonté de pouvoir derrière continuer là-dessus. Et un projet en théâtre, c'est un projet intellectuel, c'est un projet artistique, mais c'est aussi de la forme. Et pouvoir mener un projet, c'est la capacité à convaincre sur les deux aspects. Et donc convaincre sur le fond, l'ENS m'y aidait, et il s'agissait maintenant de savoir convaincre sur la forme et être capable de paraître crédible auprès de gens qui auraient les cordons de la bourse. Et donc ça menait tout simplement à ça. L'idée de faire HEC était tout simplement celle-là, mais en disant ce sera aussi une ouverture, puisque j'étais en études théâtrales, c'est très, l'ENS comme le savent tous ceux qui nous écoutent, c'est très segmentant, et c'est l'un des plaisirs mais l'une des difficultés aussi. Et là ça permettait d'ouvrir à l'ensemble des champs culturels qui m'intéressaient et me dire tiens, je rentre avec une envie de faire du théâtre à HEC, de conforter ce projet, et je sortirai peut-être avec l'envie de faire autre chose. Et dont acte.
Alors vous sortez fin 2010 et puis vous filez peu de temps après au cabinet, si je ne me trompe, au ministère de la Culture.
Directement en fait. Sortie d'HEC un peu particulière, mais il faut bien se dire que les parcours sont souvent le fait du hasard. Je cherchais comme beaucoup à savoir ce que j'allais faire ensuite, j'avais pas envie de choisir comme beaucoup. Et je me retrouve avec une proposition, celle d'un conseiller qui était un ancien de notre école, que je ne connaissais absolument pas, mais qui avait reçu une lettre d'un étudiant qui lui disait « J'ai beaucoup travaillé sur la démocratisation culturelle et le théâtre populaire, je me pose des questions sur ce que je vais faire. » Et qui justement se trouve à ce moment-là, le hasard, missionné par un ministre de la Culture qui était Frédéric Mitterrand et qui avait envie de travailler sur les sujets de démocratisation culturelle, qui lui avait demandé de s'en occuper. Et qui donc du coup se trouve avec cette mission d'un côté, cette lettre d'un jeune étudiant de l'autre, et me propose de venir, et puis après on fait ses preuves et on se retrouve à gagner la confiance de ceux qui vous entourent et du ministre et finalement de s'occuper de ces sujets-là. Donc c'était passionnant, et j'ai eu la chance en fait dans le même temps d'avoir C'était une période totalement schizophrène, puisque la semaine où je suis rentré au cabinet de Frédéric Mitterrand, la même semaine, je suis aussi devenu chroniqueur sur TF1 dans l'émission de Michel Field, ex-émission de PPDA, puis de Michel Field, puis aujourd'hui Christophe Onodibio, qui s'appelle Au fil de la nuit. Et j'étais chroniqueur littéraire, alors très schizophrène d'être à la fois dans un cabinet et donc une dimension malgré tout politique, et d'être journaliste en même temps, et donc de troquer mon costard pour un jean une fois par semaine, et parfois de retrouver d'ailleurs les mêmes invités des deux côtés qui ne comprenaient pas trop. Voilà.
Quels sont vos souvenirs marquants de cette période de cabinet? Qu'est-ce que vous en avez retiré? Comment est-ce que ça fonctionne un cabinet? Je pense que c'est quelque chose qui interroge beaucoup de gens là-dessus.
Un cabinet, c'est très instructif. C'est très instructif parce qu'on apprend, sur le fond des sujets. Et ça, c'est passionnant parce qu'on a la chance d'être dans un très beau poste d'observation en réalité. Et on apprend en accéléré. Parce qu'on est confronté à rencontrer beaucoup de gens, à comprendre comment fonctionne aussi une administration centrale. Pour des gens qui sortent d'une école d'État, c'est assez important. On est confronté aussi à une autre dimension absolument essentielle dans un parcours de vie. Et on apprend un peu en accéléré, c'est celle d'être confronté aux égos. Et dans un cabinet ministériel, Dieu sait qu'il y a de nombreux égos. Et donc on apprend à les gérer, on apprend à s'y confronter. Et très rapidement, en fait, on est assez étonné de voir qu'en 25 ans qu'on vient de rentrer et qu'on est encore tout jeune et tout naïf, il y a déjà des gens qui croient que vous voulez leur prendre leur place alors que pas du tout. Mais voilà, donc il faut savoir gérer avec ça. Et les souvenirs qu'il en reste, ouais, c'est celle des projets qu'on a menés, il y en a eu nombreux, c'est celle aussi des polémiques qu'on a pu créer. Certains diraient la malchance, mais moi j'ai envie de dire quasiment la chance de me retrouver au cœur d'une polémique qui avait défrayé la chronique à l'époque, et pendant 3 ou 4 mois avec un article de journal tous les jours qui vous cite nommément ou pas, sur une politique qui était la culture pour chacun, qui était en fait le nom donné à la politique de démocratisation culturelle, qui était un mot de Malraux, un beau mot, mais qui évidemment n'était politiquement pas très heureux. Et un ministre qui ne démordait pas, on avait eu beau le prévenir, dire que c'est pas forcément le meilleur terme à choisir, parce que culture pour chacun, ça donne l'impression d'individualisme comme ça. Mais il y tenait, puisqu'on avait un ministre un peu historien sur les bords, ou passionné d'histoire du moins, et il y tenait, et ça donnait une polémique, mais c'est instructif, ça permet d'apprendre. Être confronté à 25 ans, à gérer une pression médiatique, c'est assez instructif, donc voilà ce qu'il en reste. Et puis des beaux moments aussi avec un ministre qui était politiquement pas forcément le meilleur, mais intellectuellement et humainement vraiment quelqu'un d'extrêmement appréciable. Politiquement pas forcément le meilleur, pas forcément de son fait d'ailleurs, mais du temps qu'il a pu du peu de temps qu'il a pu traverser, et puis des budgets qui ne sont contraints dans un ministère comme celui-ci. Voilà, donc voilà les souvenirs qui restent du ministère.
Alors vous étiez conseiller diffusion et accès au contenu. Je voudrais reprendre donc cette histoire de culture pour chacun qui m'a pas échappé lorsque j'ai un petit peu consulté votre profil et ce que vous faisiez. Qu'est-ce que vous entendez par culture pour chacun? Vous avez écrit une note là-dessus d'ailleurs, hein, que j'ai rapidement consulté. N'est-ce pas un peu un mythe cette histoire? Alors culture pour chacun peut-être pas, mais la démocratisation culturelle, c'est un peu le vieux mythe du ministère de la Culture, ça.
Alors je vous invite à venir devenir étudiant dans mon cours à Sciences Po sur le sujet. Oui, j'étais conseiller pour la démocratisation culturelle, voilà. Et on était deux, puisque évidemment moi j'étais associé à un conseiller bien plus expérimenté que moi, qui était Francis Lacloche, et avec qui on a travaillé sur ces sujets. C'est un vieux mythe, vous avez raison de le dire. Malheureusement, c'est un vieux mythe, j'ai envie de dire. C'est quand même l'une des trois prérogatives du ministère de la Culture dès sa création, par décret. Le ministère de la Culture a trois fonctions: la politique du patrimoine, la politique de création et la diffusion de l'ensemble de ses œuvres. Et c'est sans doute la plus importante de ces missions-là. Et malheureusement, on s'en rend compte, c'est quasiment toujours l'élément mis en avant, et encore plus souvent aujourd'hui, celle de cet accès aux œuvres, parce que c'est un enjeu politique en réalité, c'est le vrai enjeu politique du champ des politiques culturelles. Malheureusement, c'est aussi le moins bien doté. Nous, ce qu'on a pu voir à l'époque, c'est que l'ensemble des crédits relatifs vraiment à un meilleur accès au contenu, pas uniquement l'accès classique, mais à un développement de l'accès au contenu et aux œuvres culturelles, et ben, tout regroupé en centrale, en administration centrale, ça représentait environ 110 millions d'euros. 110 millions d'euros sur un budget de fonctionnement, enfin un budget d'investissement du ministère qui est quand même de 2,7 milliards. Donc vous voyez que l'une des trois missions, mais qui est loin d'être dotée à hauteur d'un tiers, et elle est au cœur des missions normalement du ministère.
comment est-ce qu'on pourrait conclure sur cette histoire de démocratisation culturelle? En fait, c'est plutôt une bonne conscience du ministère, alors, puisqu'on ne se donne pas les moyens d'aller jusqu'au bout.
C'est malheureusement, je pense, en fait, c'est effectivement un objectif, je pense, sincère d'ailleurs de tous les derniers ministres qui sont passés, aussi bien je pense notamment à Aurélie Filippetti qui a vraiment eu cet objectif, qu'elle a mis au cœur de son projet et sincère, et on connaît son engagement et on était au début ravis de voir arriver une femme avec cet engagement-là au ministère. C'était un engagement sincère de Frédéric Mitterrand. La lettre de mission adressée à Christine Albanel était très très appuyée dans ce sens-là. C'était assez étonnant d'ailleurs. Malheureusement, effectivement, ça reste un vœu pieux parce que ça demande un peu de budget, parce que ça demande une implication grande des établissements publics qui aujourd'hui sont de plus en plus autonomes, qui sont déjà largement investis sur ces sujets. Mais il y a lieu de travailler plus. Et effectivement, c'est une matière molle. La démocratisation culturelle qui demande de travailler avec des acteurs qui sont des associatifs, qui sont des gens de terrain, qui sont, voilà, c'est une matière molle, extrêmement diffuse, qui demande énormément d'investissement, de temps, et qui effectivement est très peu très peu glorieuse, au sens où on s'implique sur ces sujets et on en retire finalement assez peu de gloire et assez peu de reconnaissance médiatique, sans doute peut-être aussi un frein dans nos univers culturels où les paillettes ne sont jamais bien loin.
Nous parlions d'Aurélie Filippetti. Qu'est-ce que vous avez pensé du passage des derniers ministres de la Culture, c'est-à-dire Aurélie Filippetti, Fleur Pellerin, Audrey Azoulay? Est-ce qu'il y a une continuité par rapport à leur prédécesseur, donc que vous connaissiez bien, Frédéric Mitterrand? Est-ce qu'il y a une rupture? Comment est-ce que ça s'est passé? Vous en pensez quoi?
Eh bien, c'est vous touchez du doigt exactement le plus gros problème en réalité du ministère aujourd'hui, dans son fonctionnement, c'est la continuité. En moyenne, les ministres de la Culture passent un peu moins de 2 ans au ministère. Et en réalité, qu'il soit de droite ou de gauche, le problème c'est la continuité. Je pense que sur de nombreux sujets, c'est un ministère qui est et qui devrait être apolitique. On dit souvent le patrimoine est plus le fait de la droite, la création et les artistes sont plus le fait de la gauche. Et de manière générale, la culture peut-être plus le fait de la gauche. Je pense que ce sont des clivages nuls et non avenus et que les grands présidents que la Ve République a eu ont tous voulu avoir un engagement culturel fort. Aujourd'hui, ce qui manque, c'est un peu de continuité et de soutien aux ministres qui sont en place. Donc, j'ai pas de jugement à porter sur la politique des différentes ministres qui se sont succédées récemment. Simplement, je regrette, comme beaucoup, je pense, que l'engagement affirmé pendant la campagne sur une sanctuarisation du budget de la culture est quand même malgré tout des signes forts envoyés au monde de la culture, et puis cet espoir qui est lié effectivement au fait que la gauche soutient quand même toujours la culture, donc il pouvait permettre de placer beaucoup d'espoir dans ce nouveau mandat, n'est pas été respecté, et du moins je pense que Aurélie Filippetti a fait ce bilan-là de son passage et a bien vu comment budget, notamment sur le spectacle vivant qui ont été sanctuarisés au début, etc. Bon, malgré tout, aujourd'hui, on est obligé de reconnaître que sous le mandat de François Hollande, on aura eu la première baisse appuyée des budgets du ministère de la Culture pendant 3 ans d'affilée. Première fois depuis des décennies, et que c'est un peu malheureux. On aurait voulu en attendre autre chose et espérer plus.
Quel sens, pour finir sur les questions culturelles, qui sont quand même très importantes aujourd'hui, surtout avec la question que je vais vous poser, je pose les questions à l'envers, avec ce qu'on voit aujourd'hui, cette espèce de crise identitaire que connaît la France en partie, l'Europe ou peut-être même l'Occident, si on veut être un petit peu grandiloquent, est-ce que la culture peut être une solution aujourd'hui, et de quelle manière pourrait-elle être une solution?
La culture devrait et doit être une solution. Il y a un fait étonnant et intéressant, c'est de voir ce qu'il y a quelques mois, le gouvernement italien a proposé. Le gouvernement italien, à peu près concomitamment des attentats à Paris, a décidé de mettre en place, de débloquer une enveloppe d'1 milliard pour lutter contre le terrorisme. 1 milliard affecté pour moitié à des prérogatives régaliennes relevant de la sécurité du ministère de l'Intérieur et pour moitié à la culture. Se disant que les deux moyens de lutter contre le terrorisme, c'était un moyen immédiat, sans doute, la sécurité, et un moyen de long terme, la culture. La culture et l'éducation, ce sont des sujets qui vont de pair. Il y a un éveil aujourd'hui, il y a quelque chose de puissant. On, on le voit bien, on est dans un monde des images. Comment mieux éduquer aux images qu'en éduquant la culture? La culture, c'est l'apprentissage du regard critique. C'est ce qui nous manque de plus en plus crucialement aujourd'hui. On passe dans un monde d'une économie de la connaissance où la connaître quelque chose était au cœur, et on le voit dans nos différentes pédagogies. L'éducation, c'est d'abord l'apprentissage, la connaissance, le par cœur et ces choses-là. Et on voit bien qu'on évolue. Alors, il ne faut pas du tout mettre à mal cette pédagogie-là, hein, absolument pas, c'est pas ce que je dis, mais on voit bien comment on évolue vers un monde où le problème n'est plus de savoir, mais de où chercher. Et donc de savoir trier, et donc d'avoir une approche critique. Et l'approche critique, elle est le fait évidemment des professeurs, le fait de ce monde de l'enseignement, mais ce qui permet à l'homme de s'individualiser, de s'affirmer, de faire des choix personnels, à côté de cette éducation où on a un enseignement global adressé à tous, sans doute la culture est le moyen de se différencier, de s'assumer en tant qu'individu, et c'est absolument central, surtout dans les périodes qu'on traverse aujourd'hui.
Pour revenir sur ce que faisait l'Italie, qui est très intéressant, est-ce que la France a initié quelque chose de cette envergure-là, ou on s'est juste contenté de mettre le paquet sur les questions sécuritaires?
Écoutez, objectivement, alors je ne suis pas dans le sein des saints pour savoir quels sont les projets, mais effectivement, le constat qu'on peut faire, c'est de se dire, malheureusement, on a connu de tristes événements en 2015. Le premier a eu lieu dans un lieu de culture, c'est-à-dire dans la rédaction d'un journal. Le deuxième a eu lieu dans un lieu de culture aussi, c'est-à-dire dans une salle de spectacle. La ministre de tutelle, Flore Pellerin, a été à chaque fois associée aux cellules de crise qui s'étaient mises en place, évidemment. Malheureusement, du moins en affichage, comme simple citoyen et comme nous tous, c'est la seule implication que j'ai vue du monde des politiques culturelles aujourd'hui, c'est d'avoir participé aux cellules de crise lors des attaques. Et c'est malheureux, parce que je pense qu'il y avait vraiment un levier à actionner dans la culture pour lutter sur ces éléments que vous identifiez. Et aujourd'hui, on devrait faire beaucoup plus. Faire sur l'éducation, évidemment, mais faire sur la culture dans le même temps, c'est indissociable.
Après votre passage au ministère de la Culture, vous intégrez en 2011 le groupe Artemis de François Pinault. Quel a été votre rôle lors de ce passage de 2 ans chez Artemis?
Eh bien, écoutez, j'étais chargé de mission auprès du directeur général d'Artemis, qui se trouve être Patricia Barbizet, qui a créé et donc toujours dirigé cette holding qui est le groupe Artemis, qui s'occupe de l'ensemble des activités de la famille Pinault, aussi bien le groupe Kering, ex-PPR, mais qu'une multitude d'autres activités. Et moi, j'ai coutume de dire qu'en réalité, c'est une sorte de mini-ministère de la culture privée. Donc finalement, c'était assez logique en sortant du ministère, puisque vous y retrouvez aussi bien les activités de presse, comme le groupe Le Point, que d'édition avec Talendier, que de théâtre avec le Théâtre Marigny, que évidemment d'art avec la collection d'art contemporain et les fondations Pinault associées, les musées à Venise, du jeu vidéo à l'époque avec une société qui était celle de Nicolas Gomme, etc., etc. Christie's, la maison de vente aux enchères, du vin, Château Latour. Donc c'est absolument formidable, une diversité très grande, même de l'entertainment avec le Stade Rennais. On est un peu plus loin, beaucoup de choses. Donc c'est intéressant. Donc, mon activité, mon rôle là, c'était finalement celui d'être au service du directeur général, de pouvoir l'accompagner, l'aider dans son quotidien, et éventuellement être aussi une veilleuse, un élément de veille pour sur les différentes activités du groupe et de compréhension sur certains enjeux.
2013 à présent, donc 2 ans après votre entrée au groupe Artemis, vous rejoignez le think tank Forum d'Avignon en tant que directeur adjoint. Alors, ce think tank est devenu en quelques années incontournable dans le monde de la culture, hein, puisque c'est essentiellement sur ces questions-là qu'il réfléchit, qu'il élabore donc des prospectives, alors avec une approche que nous allons préciser. Et on parle beaucoup du Davos des médias et de la culture, avec l'organisation des rencontres internationales de la culture, de l'économie et des médias, donc à Avignon. Pourriez-vous nous parler davantage des objectifs de ce think tank, de sa méthodologie, et que faisiez-vous exactement en tant que directeur adjoint?
Alors, ce think tank est né en 2007-2008, en réalité de la volonté à l'époque de deux ministres qui l'ont voulu puis mis en œuvre, qui étaient Renaud Donnedieu-Vabre et Christine Albanel, et de ce constat en fait que à l'époque en tout cas, les mondes de la culture et de l'économie semblaient trop éloignés l'un de l'autre. Alors pourtant, et notamment via les industries culturelles que vous connaissez, c'est-à-dire l'industrie phonographique, l'industrie du livre, l'industrie audiovisuelle, etc., il y avait plus que lieu de se rapprocher et de parler. Donc ces ministres ont voulu les rassembler en un lieu au Palais des Papes à Avignon. Ça a donné le Forum d'Avignon qui, d'un événement qui se voulait ponctuel, est devenu régulier et présent chaque année. Le Forum d'Avignon n'est pas que cela, il est à la fois un think tank qui travaille au jour le jour avec des grands cabinets de conseil qui produisent des études dures sur nos sujets. Dures, je veux dire par là, informés en essayant d'être le plus... le plus concret possible sur des sujets qui sont souvent un peu complexes à saisir. Je pense à la prescription culturelle, je pense au big data, etc. etc. Et donc voilà, fonctionne sur ces deux pieds, à la fois un travail de think tank à l'année et cette manifestation chaque année. Donc j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler dans think tank que présidait Nicolas Sédoux et avec une diversité d'acteurs culturels et économiques qui le dirigent, et c'était très intéressant. Donc, et mon rôle là-dedans, c'est celui de, encore une fois, là, d'être adjoint de la directrice générale, de lui supplier si nécessaire, d'organiser ses rencontres, de trouver de nouvelles choses. On avait créé un hackathon, d'être présent dans le cadre de ses études avec auprès du directeur éditorial qui les coordonnait, et de l'activité de ce que c'est que la vie à la fois d'un think tank, comme vous le disiez, qui a une surface médiatique assez importante et en même temps qui reste une petite entreprise.
On va peut-être parler, si vous le voulez bien, de votre activité actuelle, puisque vous rejoignez donc Sciences Po en tant que maître de conférence, donc en master affaires publiques, si je ne me trompe, sur la question donc, tout naturellement culturelle. Et en même temps, donc, vous pilotez différents projets audiovisuels dont vous pourriez peut-être nous parler un peu plus en détail.
Alors oui, aujourd'hui, en fait, il se trouve que Sciences Po m'a effectivement proposé, depuis 3 ans maintenant, d'être ce qu'ils appellent maître de conférence, mais rassurez-vous, il ne s'agit pas des maîtres de conférence que nous connaissons, et donc d'assumer un cours, ce qui sont dévolus généralement à quelques professionnels du secteur concerné, en master affaires publiques. Ce sont des sujets passionnants, et je suis ravi de pouvoir joindre ce qui est ma formation initiale qui me vouait à l'enseignement avec le chemin que j'ai pris qui en est un peu plus éloigné. On a eu l'occasion de mener effectivement Sciences Po a créé un prix européen du patrimoine qu'on a beaucoup porté, voilà, et c'est vraiment une activité qui m'est importante, et aujourd'hui on mène avec les étudiants, j'essaye de les impliquer le plus possible et de rendre la chose intéressante pour eux, et au lieu de faire un cours très simple, on est parti sur un projet qui prend de plus en plus de place et qui est devenu le sujet même du cours, qui est de produire un livre qui sera une interpellation des jeunes sur les sujets culturels et interpeller les responsables et les acteurs politiques dans le champ de la culture, et évidemment dans une période de débat qui vous aura pas échappé et qui se prête particulièrement à l'exercice. Donc on rencontre aujourd'hui, on auditionne tous les grands responsables du monde culturel, toutes les grandes figures du monde culturel, et on essaie de produire ce livre qu'on espère pouvoir rendre public à la fin de l'année 2016. Quant aux autres projets, écoutez, on se retrouve facilement aussi embarqué dans des choses passionnantes. J'ai eu la chance d'accompagner et de construire le projet d'un candidat à la présidence de France Télévisions. Vous savez que la nomination avait lieu l'année dernière. Il se trouve que c'était le candidat finaliste malheureux, Pascal Joseph, mais ça s'est joué à un cheveu et c'était absolument passionnant. Ce sont des moments intéressants toujours, puisque dans le public, il y a cette particularité des processus de nomination des dirigeants qui font qu'on travaille en chambre et on produit un projet d'entreprise from scratch, comme on dit, à partir de rien, ex nihilo, pour une entreprise de 10 000 salariés. Donc c'est un défi toujours passionnant, c'est sans doute la plus grosse entreprise publique de nos secteurs culturels au sens large et médiatique. Donc c'était un défi passionnant. Il y a eu d'autres projets, évidemment, j'ai travaillé... encore récemment, j'ai accompagné Mouloud Achour, qui est journaliste de Canal+, que certains connaissent, et qui aujourd'hui a monté une plateforme qui s'appelle Click.tv, et qui est assez unique en son genre, et qui est une plateforme de prescription culturelle en réalité, et qui permet à la fois de donner la parole à des Kanye West, et puis la semaine suivante d'aller interroger la ministre du Travail. Et donc voilà, ça participe aussi d'une meilleure démocratisation culturelle et ouverture culturelle, pour reprendre les sujets dont on parlait tout à l'heure. Donc voilà quelques exemples des projets que j'ai pu accompagner, suivre et mener récemment.
Et dans 10 ans, où est-ce que vous vous voyez ? Question difficile, hein, puisque d'autant qu'on parlait à juste titre de la dimension de rencontre et de hasard, mais est-ce que, en tout cas, vous avez une esquisse ou des envies, tout simplement ?
Bah, c'est, vous dites très bien, dans 10 ans, je me vois après 10 nouveaux hasards, et donc comme une bille de flipper, honnêtement, très très compliqué de vous dire. Sans doute toujours dans l'univers culturel, puisque néanmoins, on a beau avoir des parcours hasardeux, il y a quand même des lignes qui reviennent, des lignes forces. Donc ce sera sans doute sur ces enjeux, à n'en pas douter. Plus que ça, j'aurais du mal à vous dire, et tant mieux d'ailleurs, parce que c'est ça qui est intéressant.
Dernière question, on repart en fait à la première question, avec le recul. Maintenant, tout ce que vous avez fait, ça fait bientôt 5-6 ans que vous êtes sorti de l'école, que vous êtes dans la vie active, on a vu un parcours très chargé, plein d'expériences. Qu'est-ce que vous a apporté, que vous ont apporté vos études à l'ENS ?
Les études de l'ENS, elles sont absolument centrales dans le parcours. D'abord par goût, c'est-à-dire que moi, ça fait partie des meilleures années de ma courte vie. C'est des années que j'ai appréciées et j'ai saisi la chance qu'on avait à l'école et les spécificités de cette école par rapport à peu près tous les autres parcours qu'on peut choisir de faire. Le fait de rentrer à l'école, de ne même pas avoir un cours d'amphi en commun avec l'ensemble de la promotion, on peut le vivre comme une plaie, comme une souffrance aussi, mais en réalité c'est formidable parce que c'est la reconnaissance de l'affirmation de goût, de personnalité, de choix aussi jeune. C'est une grande confiance que nous donne l'école dans un formidable outil qui nous permet de mener énormément de projets. Donc avant tout par goût, ce sont des années formidables et extrêmement formatrices intellectuellement. Ensuite professionnellement, s'il fallait avoir un regard un peu plus subjectif, je pense qu'il faut savoir se servir de ces années d'école. Pour ceux qui rejoindront les voies de l'enseignement et ils auront raison, ce sera évidemment un outil incontournable. Pour ceux qui choisiront de faire autre chose, ce sera aussi votre marque de fabrique, le moyen pour vous de vous singulariser, ce qui est honnêtement toujours appréciable dans un monde où les copycats sont nombreux. Après, il faut savoir s'en servir, la singularité n'est pas toujours un atout, il faut savoir l'utiliser avec mesure, mais ça reste une force avant d'être une difficulté.